Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu DevOps. Et nous sommes en octobre 2020, au moment où on enregistre cette émission. Donc si tu ne connais pas encore l'émission, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis sache que ce podcast, il est animé par les membres de la communauté des compagnons du DevOps. Et si tu n'es pas encore membre de la communauté, tu peux nous rejoindre, on discute sur un forum, on est nombreux, on est plus de 700 maintenant, et tu trouveras toujours des sujets qui t'intéressent. Et puis, si tu n'en trouves pas, tu pourras les créer. Et aujourd'hui, je suis avec Benoît. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Avec Damir aussi. Bonjour Damir.
Bonjour.
Et avec Erwan. Bonjour Erwan.
Bonsoir.
C'est vrai que nous sommes le soir. Aujourd'hui, on a quatre actualités et on va commencer par une petite actualité. C'est moi qui m'y colle pour le début. Donc, c'est en fait un article du Business Insider du 22 septembre, donc ça fait pas longtemps, qu'on a appris que Microsoft en fait lançait une école gratuite sur le cloud en France. En fait, elle lance cette école en partenariat avec Simplon.co, si vous ne connaissez pas. C'est très bien ce qu'ils font, donc allez voir. Et pour le moment, il y aura deux écoles seulement en France. Alors la formation, en fait, elle se base sur 6 mois de formation intensive, puis 12 mois de contrat de professionnalisation avec des entreprises partenaires. Donc l'article, il cite plusieurs entreprises, et parmi les plus connues, on a Econocom, Claranet ou CGI. Et en fait, au programme, il y a un tronc commun, et puis après, une spécialisation au choix, donc soit développeur cloud, soit administrateur cloud, option FinOps. Dans le programme, il y a de la virtualisation, du script simple, de la mise en place d'infrastructures simples, et puis aussi et surtout déployer une application dans le cloud. On peut entrer justement dans ce cursus sans diplôme, sans expérience en informatique, mais en fait, il faut avoir soit un projet autour des métiers du cloud, soit être super motivé, et comme le dit l'article, il va falloir le prouver. On est en fait là dans la lignée des grandes écoles du numérique pour favoriser l'inclusion dans les métiers du numérique. Donc la priorité finalement, elle est donnée aux personnes de moins de 30 ans ou issues de quartiers populaires ou aux femmes ou aux personnes au RSA. C'est financé par les entreprises partenaires qui financent la formation ou les fonds de financement de la formation professionnelle. Alors ce que dit pas l'article, c'est qu'en fait, ce que moi j'ai vu dans la fiche de recherche, c'est qu'il y a des certifications Azure à la clé, évidemment, on pouvait s'en douter, puisqu'il y a Microsoft derrière. Et ce que ne dit pas non plus l'article, mais ce que je peux vous dire, étant donné que j'accueille des alternants, et que je me suis penché sur le contrat de professionnalisation, c'est l'école, elle est gratuite pour les personnes qui la suivent. Par contre, le salaire, finalement, de l'alternant, puisqu'on parle d'alternance, du coup, puisqu'il y a 12 mois de contrat de professionnalisation, ce salaire-là, il est payé par l'entreprise. Et accessoirement, le coût de la formation est payé par l'entreprise, soit au travers des organismes de formation auxquels on verse une cotisation tous les mois ou d'autres choses. Alors, avant de m'exprimer, j'aimerais avoir votre avis et savoir lequel d'entre vous, finalement, veut commencer sur cette école-là. Damir, je te laisse la parole.
Allez, je vais m'y coller. C'est vrai que j'ai la chance d'être aussi prof vacataire en université, donc j'ai un peu l'habitude de ce milieu. Et c'est vrai que ça devient un peu plus, de plus en plus, une arlésienne de voir des gros groupes sponsoriser des cursus entiers ou tout simplement des écoles comme là. Après, C'est un choix stratégique qui est clair et qui est franchement assez logique. Hein. J'ai écrit des articles là-dessus. C'est qu'au final, c'est une logique qui est très simple, parce qu'aujourd'hui, on est dans un marché qui est ultra tendu. On part sur des technos pour plusieurs questions. Donc, il y a la question, est-ce que ça répond aux besoins ? Il y a la question, le prix. Mais il y a surtout la question, est-ce que j'ai du mal à trouver des compétences ? Et aujourd'hui, quand vous allez partir sur du cloud, par exemple, une des premières questions qu'on se pose aujourd'hui, quand on est décideur et quand on est DSI, c'est de se dire, bah, si je pars sur tel cloud, est-ce que je vais avoir des difficultés à recruter ou pas ? Et vu que le recrutement aujourd'hui en informatique est une galère, on va pas se le cacher, de trouver des gens compétents, bah, c'est très simple, ils partent sur là où il y a le plus de possibilités, entre guillemets, sur le marché. Donc au final, cette stratégie, encore une fois, elle va venir du coup aider à acquérir des clients au final, au moins en décalé. Ce qui m'inquiète un peu plus, et ça c'est quelque chose que je constate aussi en parallèle, c'est que de plus en plus de personnes qui étudient ou qui travaillent dans nos domaines se contentent de ce qu'on leur dit et vont pas chercher plus loin. Moi, par exemple, je donne cours de Continuous Deployment, Continuous Delivery. Bah, je le prends l'exemple de GitLab parce que c'est le produit avec lequel on est associé, mais j'essaie d'être le plus générique possible et d'expliquer les paradigmes en leur disant n'hésitez pas à aller voir autre chose, n'hésitez pas à comparer les différents produits, n'hésitez pas à avoir du recul en fait. Et c'est un gros problème aujourd'hui, c'est que je vois de plus en plus de gens qui suivent une formation, ils apprennent un produit, ils restent sur ce produit, et à terme, bah, ça va rester en fait sur ce modèle-là. Donc c'est très problématique. Après, d'un autre côté, c'est bien aussi d'avoir des formations qui sont en adéquation avec ce qui se fait. On va pas se le cacher, mais ça serait bien qu'il y ait un peu plus de diversité, entre guillemets, dans les formations, que les gens arrivent à avoir le recul. Et ça, malheureusement, ce sera pas toujours le cas. Et pour pinailler un peu, je rajouterai le point que c'est pas l'entreprise qui paye le salaire ni l'école. Au final, l'entreprise, elle rémunère la personne, donc l'alternant qui fait un travail, au travers du financement de sa formation et de son salaire, bien sûr. Après, je pinaille un peu. Hein.
Ouais, pour rebondir là-dessus, je pense que c'est un truc qui est pas nouveau au final. Moi, je me souviens quand j'étais en études et que je faisais des cours de réseau, on avait des cours donnés par Cisco avec certification à la clé. Et l'objectif, il est toujours le même, c'est de boucler la boucle, c'est de, quand on a une position quasi majoritaire sur le marché, si en plus on peut avoir les étudiants qui sortent d'école, qui sont formés en priorité sur nos technologies plutôt que celles du concurrent, on se met en très très bonne position derrière, on est assez indéboulonnable. Je suis un peu partagé par cette news parce que d'une part, je vois cette stratégie de la part de Microsoft, hein, qui nous paraît évidente à tous. Donc on peut, enfin, j'ai des réserves par rapport à ça. Après, à côté de ça, on parle de zones qui, en termes de, enfin, moi je viens de Seine-Saint-Denis, j'ai pas eu, alors je parle pas pour mon cas parce que moi j'ai eu la chance d'avoir des conditions suffisamment confortables pour faire des études sans trop de problèmes, mais il y en a plein pour qui c'est pas le cas en Seine-Saint-Denis, et je trouve ça en même temps bien qu'il y ait des initiatives pour un département comme celui-là, et notamment si c'est mené en partie par Simplon. Enfin, typiquement, je suis assez d'accord avec toi, Christophe, Simplon, c'est un super projet, quoi. Pour le coup, c'est le genre de projet dont on manque et qu'il faudrait multiplier par 10, voire par 100 pour avoir un impact intéressant. Et voilà, après, effectivement, c'est une stratégie de la part d'une grosse entreprise. C'est complètement intéressé. Voilà, c'est jamais facile de parler de ces sujets-là. Après, une autre question autour de ça, c'est est-ce que c'est aux grosses entreprises d'aller combler les manques du système éducatif en France? Et ça, voilà, j'ai pas la prétention de savoir répondre à cette question, mais en tout cas, voilà, il y a du bon et du moins bon dans cette question, et il y a plein de sujets intéressants, je trouve, à discuter. Qu'est-ce que t'en penses, Erwan?
Ouais, moi je rejoins pas mal ce que vous venez de dire. Après, globalement, je pense que toutes les initiatives qui permettent de faire avancer ce genre de sujet, faut les prendre, même si on se doute qu'ils font pas, ils sont pas là pour faire du social, hein, Microsoft, hein, c'est clairement avec une vision pour avoir plus de business à terme. Mais du coup, c'est ça, si ça peut permettre à des gens d'être formés et de pouvoir trouver du taf après, etc. Enfin, faut prendre, hein. Et puis après, faut espérer que les cours qui soient associés soient un peu comme ce que disait Damien juste avant, soient suffisamment ouvert pour pas être orienté en mode publicité pour Microsoft, c'est-à-dire qu'il y a que ça qui existe et qui répond à des besoins, quoi. Donc, je sais pas trop comment. Je connais Simplon aussi, mais je sais pas trop comment marche leur enseignement. Mais si j'imagine que si c'est fait ensemble, bah, ça doit être un truc quand même relativement générique et que finalement, on peut même imaginer que ça soit juste des coupons, peut-être pour faire des projets ou quoi que ce soit, et que ça soit pas une vraie pub déguisée, quoi.
Il y a quand même 3 certifications Azure à la clé. Hein. Donc, pour moi, je suis assez d'accord avec vous. De toute façon, on a besoin hein, de former les gens, que ce soit Microsoft, Amazon Web Services ou Google Cloud. Hein. Ça m'embête de le dire, mais on en a besoin. Ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que finalement, j'ai l'impression que Microsoft est assez proactif dans ce rayon-là, puisqu'on connaît les accointances entre l'éducation nationale et Microsoft. Et autres, et je suis pas sûr que les autres suivent. Et alors moi, ce qui m'embête aussi, c'est quid des cloud providers français ou européens? Est-ce qu'ils vont emboîter le pas? Est-ce qu'ils vont aider justement ces écoles-là? Ce qui serait vraiment super bien. Et là, pour le coup, moi, je me pose aussi une question, parce que si la formation dure 6 mois et qu'en plus il y a un tronc commun, puis après on choisit sa spécialisation, comment on va apporter finalement la base général et comment on va apporter la spécialisation Azure? Ça, je sais pas trop. Erwan, tu voulais réagir?
Ouais, non, justement, t'en as parlé vite fait, mais je me disais, est-ce qu'on se poserait toutes ces questions si c'était Scaleway qui faisait ça? Est-ce qu'on serait pas plus tolérant, entre guillemets, et pas. Enfin, je sais pas, hein, mais et j'imagine que ça serait toujours avec la même approche de faire du business derrière à terme, mais. Ou OVH, hein. Mais est-ce qu'on n'a pas cette image un peu biaisée aussi de, moi, je vais me faire des ennemis, hein, mais de voir le mal partout chez les 3 gros, quoi.
Là, honnêtement, je suis totalement d'accord avec toi, et je pense que dans tous les cas, il faut donner le plus possible une formation. Et moi, aujourd'hui, je suis pour militer pour une formation qui soit le plus générique possible, qui apprenne vraiment les concepts de base, l'historique et vraiment des bases qui ne changeront pas. Mais pour tout ce qui est après techno, quand on se ferme sur quelque chose, que ce soit un GAFAM ou autre, ça reste une fermeture d'esprit, une fermeture de manière de penser. J'aime beaucoup Scaleway, j'aime aussi, franchement, je prends du plaisir à travailler sur AWS, même s'il y a derrière des choses qui ne sont pas ouf, c'est agréable à utiliser en tant que tech. Donc aujourd'hui, là-dessus, moi, j'ai rien à redire, mais demain, si on me dit, on fait une école, mais on va faire qu'une technologie, ça me gêne, parce que je me dis que les étudiants, ils vont sortir de là, et j'en ai déjà parlé assez souvent, c'est que l'étudiant, il arrive, il est promu consultant, comme le dit Christophe, il a passé ses certifs, et ça, on va pas se le cacher, c'est vieux comme le monde, c'est narlésienne, on avait déjà le cas avec Oracle à l'époque, et les bases de données en université, où ils payaient des licences aux universités et payaient la formation. Pour le coup, c'est pas nouveau. Donc le problème, c'est que le jour où ils sortent en fait de l'école, si jamais ils ont vu que ça et ils sont formés là-dessus, ils vont potentiellement faire par exemple du consulting. On sait que beaucoup de grosses ESN sont friands de ce genre de personnes qui sont souvent en reformation, donc ils vont pouvoir être un peu moins embêtants sur le salaire, on va pas se leurrer. Et du coup, ils vont les recruter, ils vont les envoyer en consulting. Le client va leur faire confiance parce que certification égale expertise dans énormément de cas dans ces ESN. Je parle vraiment des très grosses ESN, assez caricaturales malheureusement. Et pour le coup, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller en clientèle. Leur client va dire « j'ai ce besoin ». La personne, si elle a vu que du Azure, en fait, c'est toujours comme toujours. Si vous avez toujours eu des… Si votre problème, c'est un… Si vous avez toujours eu à planter des clous et que votre et que vous avez une vis, vous allez planter avec un marteau la vis. Là, ça va être exactement le même cas. C'est que la personne, elle ne va pas chercher à comprendre forcément le besoin. Elle connaît Azure, elle va prendre Azure parce que c'est le plus adapté. Elle aurait fait du Scaleway, elle aurait fait exactement la même chose. Pour moi, c'est ça le problème au fond, c'est de ne plus avoir ce niveau de recul. Et pour moi, c'est un gros souci. Et aujourd'hui, où les technos avancent très vite, je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur des connaissances de base, des paradigmes, du Linux, des choses comme ça, pour que les gens s'y retrouvent, que focus des formations sur des produits high level, entre guillemets.
Je suis assez d'accord. En fait, pour moi, il y a la base de générique, elle devrait être super importante, et la spécialisation, selon moi, elle devrait se faire sur plusieurs cloud providers pour justement apporter déjà une première différence et que au moins deux, que les étudiants puissent connaître au moins 2 cloud providers. Parce que, alors ça dépend, hein. Vous savez que moi beaucoup d'infrastructures as a service et un peu moins de plateformes as a service et de services managés. Mais du coup, les briques de base sont souvent les mêmes. Et apprendre justement cette base sur les cloud providers et après deux ou trois spécialisations, ça peut être vraiment bien pour les écoles. Après, moi, je doute un petit peu quand même de arriver sans connaissance en informatique et puis en 6 mois, pouvoir faire du déploiement dans le cloud. J'émets quand même quelques doutes là-dessus.
Mais justement, je pense, pour recouper ce que disait Damir, c'est que si c'est une formation accélérée et que c'est proposé par un gros du cloud, je pense que la réponse, elle est là. Hein. C'est, ça va pas être une formation générique. Et t'en parlais tout à l'heure, il y a les certifications à la clé, etc. Donc, il y a cette question-là de la qualité de la formation et à quel point on donne les outils, les bons outils, les bonnes méthodes aux personnes qui vont sortir avec ce diplôme-là ou avec cette formation-là pour faire le meilleur chemin possible pour eux sur le marché. Et typiquement, c'est là-dessus que je parlais de réserve tout à l'heure. Enfin, je pense qu'on pense un peu à la même chose. Mais... Et effectivement, ça, pour le coup, c'est vrai que ce soit un cloud provider français, américain ou autre. Après, je pense qu'on a aussi tous en tête la notion de souveraineté numérique. Et je pense que c'est de là que vient aussi le débat un peu cloud provider français versus américain. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Quoi.
C'est en effet encore un autre sujet dont on pourrait débattre longtemps. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce sujet-là ou on passe au sujet suivant ?
Ah, je dirais juste qu'il y a aussi ce sujet de formation accélérée entre guillemets, et je pense que ça c'est un sujet à part entière, et aujourd'hui on a de plus en plus où on va leur apprendre des choses très précises, en fait très high level, sans apprendre les bases, et parfois il y a des gens motivés qui vont creuser d'eux-mêmes pour avoir les bases, souvent malheureusement non. Est-ce que c'est un problème ou pas ? Mais ça c'est un grand débat qu'on pourra avoir dans un futur épisode, j'ai envie de dire.
C'est un vaste sujet, ouais, qui mériterait qu'on redéveloppe clairement. Je suis assez d'accord.
C'est au sujet suivant, un sujet un peu plus léger puisqu'on va parler de canards. Donc Erwan, tu as quelque chose à nous raconter à propos des canards.
Ouais, à propos de DuckDuckGo. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin qui n'utilisent pas ou connaissent pas, DuckDuckGo c'est quoi ? Bah, c'est un moteur de recherche dont la philosophie est très orientée autour de la préservation de la vie privée, puisqu'ils ne stockent et ne revendent aucune information personnelle concernant leurs utilisateurs. Ouais. Et donc on a appris il y a peu via un blog post de DuckDuckGo justement que ce moteur de recherche du coup n'allait plus être proposé dans la liste des moteurs de recherche possibles que vous avez lorsque vous initialisez un device Android pour la première fois. Donc, quand vous l'initialisez, en gros, une des premières choses qu'on vous demande, c'est de choisir votre moteur de recherche. Vous avez une liste de 5-6 moteurs et vous choisissez celui que vous préférez. Donc, il y a bien sûr Google et il y en a d'autres dont DuckDuckGo a fait partie pendant longtemps. Et en fait, ce qui est intéressant dans la news, c'est justement de comprendre pourquoi ils ne sont plus dans cette liste. Alors, pour comprendre, il faut savoir comment cette liste elle est constituée. Il faut savoir que en 2019, la Commission européenne avait condamné Google pour abus de position dominante sur son moteur de recherche qui était embarqué sur les devices Android. Et donc du coup, ils ont demandé de trouver une alternative pour proposer pour avoir des choix de moteurs de recherche alternatifs. Et donc Google a mis en place un système qui est le suivant, c'est-à-dire que chaque trimestre, la liste des moteurs de recherche alternatifs va être reset, en fait. Et pour faire partie de cette liste, chaque moteur de recherche doit participer à un espèce de système d'enchères. Les enchères, c'est en gros le prix que chaque moteur de recherche versera à Google pour chaque utilisateur qui aura choisi leur moteur comme moteur par défaut sur l'appareil Android. Et donc vous l'avez compris, y a chaque moteur de recherche fait en gros une sorte d'estimation et de pari sur le coût que peut ou va avoir un utilisateur à les choisir. Et bien entendu, Google regarde les différentes enchères qui sont faites, prend les X enchères les plus élevées, et c'est les X moteurs qui apparaîtront dans cette fameuse liste. Alors vous allez me dire, ah bah oui, bon, bah, ça veut dire que DuckDuckGo a participé aux enchères, et puis avant il gagnait, et là il perdait. Bah, c'est en partie c'est vrai, parce que effectivement, auparavant, au niveau du système d'enchères, bah, il y avait beaucoup moins d'acteurs qui participaient. Donc, du coup, DuckDuckGo était forcément un peu mieux classé. Et puis en plus, avec les datas qu'ils ont récoltées, enfin sur l'adhésion que les gens avaient avec ce système, ils ont fait un espèce de calcul de leur ROI, et donc du coup ils ont décidé de réduire un peu l'offre qu'ils faisaient à Google, et donc voilà. Et alors pourquoi tout ceci est un problème, et pourquoi DuckDuckGo gueule? Ben en fait, ce que met en avant DuckDuckGo, c'est que ils expliquent que ce système d'enchères en fait va privilégier uniquement les moteurs de recherche qui vont monétiser au plus en fait leur business. Et donc souvent un des leviers importants de monétisation pour ce genre de plateforme, bah, c'est de monétiser les données des utilisateurs, etc. Donc comme eux ne font pas ça, et qu'en plus une partie des sous qu'ils génèrent, ils les reversent à des associations, bah, ils expliquent que le système mis en place par Google en fait va privilégier uniquement entre guillemets ceux qui sont les plus qui ont le système le plus mercantile possible, et du coup le modèle, c'est pas un modèle économique vraiment vertueux. En particulier, du coup, pour l'utilisateur final. Et DuckDuckGo n'est pas le seul impacté par ça. Donc, il y a Quant, que vous connaissez tous, qui est aussi impacté. Et il y a même Lilo, qui est peut-être un peu plus de niche, mais qui a été pas mal impacté, au point que eux ne participent même plus à ce système d'enchères. Donc ils n'apparaissent plus jamais dans cette liste. Et donc en fait, DuckDuckGo dans leur blog post explique du coup pourquoi en gros ça va pousser les moteurs de recherche à monétiser encore plus les données des utilisateurs, et ils expliquent en plus que DuckDuckGo en fait ils se retrouvent un petit peu mis en marge, parce qu'ils expliquent que d'après les différentes stats, alors après on peut discuter d'où viennent ces stats, hein, mais que lorsque le choix est totalement libre pour l'utilisateur, en fait un des moteurs de recherche les plus choisis, c'est eux en fait. C'est un des plus populaires, et c'est un des plus populaires qui n'apparaîtra donc plus jamais dans la fameuse liste des moteurs par défaut. Donc du coup ils essayent de faire du lobby avec ça, et ils essayent de faire du lobby auprès de la Commission européenne, qui est en fait la seule instance qui peut forcer quelque part Google à changer le système proposé, et donc à faire pression sur Google. Ça ne veut pas dire que DuckDuckGo disparaît totalement, puisque dans certains pays, donc j'ai noté qu'il y avait la Bulgarie, la Croatie, l'Islande et le Liechtenstein, DuckDuckGo a gagné les enchères, donc probablement parce que les autres acteurs en fait n'avaient pas forcément participé aux enchères. Et donc voilà. Et ce qui est important à retenir, c'est que du coup les gagnants un peu de ces systèmes d'enchères, bah, ce sont les moteurs de recherche Infocom, GMX et Bing. Donc finalement, on se rend compte que c'est pas forcément ceux qui sont connus ou respectés pour leur politique vis-à-vis des utilisateurs qui est mis en avant, et donc du coup ça pose un problème sur ce système. Alors j'imagine que Christophe, quand tu entends tout ça, tu hausses les sourcils. Mais bah déjà, je savais pas si. Est-ce que vous étiez au courant de ce système d'enchères? Moi, j'ai découvert ça avec la news. Et du coup, bah, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, je vais commencer alors. Là, je sais pas quoi dire. Honnêtement, les bras m'en tombent. Non, j'étais même pas au courant que ça existait. Et puis, naïvement, je me demande comment ça peut exister. Enfin, je veux dire, c'est quand même une position dominante de dire, bah, payer pour pouvoir être installé chez moi, quoi. Enfin, bon, non, honnêtement, je sais vraiment pas quoi dire. Les bras m'en tombent. Pouch.
Bah, du coup, je vais enchaîner. Est-ce qu'il y a un système d'enchères ? Alors, j'étais au courant qu'il y en avait. Et de mémoire, alors corrigez-moi si je me trompe, mais c'est assez courant dans ce genre de situation. Et il me semble que c'est la même chose avec Firefox pour le moteur par défaut, le moteur de recherche par défaut. Donc, c'est une méthode qui est assez courante. Après, on peut se dire que c'est pas facile de départager. Au final, il n'y a pas 10 000 solutions. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai que comme ça, je vois pas trop d'autres solutions. Faut pas se le cacher, c'est des entreprises qui ont un business aussi. Et demain, par exemple, Firefox, c'est quand même, on sait que c'est une très grosse entrée de revenus. C'est combien paye Google pour être le moteur par défaut. Donc là-dessus, des fois, il y a aussi, selon la plateforme, des, on va dire pas un cercle vertueux non plus, mais il y a quand même une manière de rémunérer certains choix. Pour le coup, là, est-ce que c'est un peu exagéré ? C'est une grande question. Pourquoi ils font une liste si courte ? Il y a des choses là qui me paraissent un peu dommage entre guillemets. Mais je sais pas si vous avez une idée, d'ailleurs ce serait intéressant, de système alternatif à ça, qui serait peut-être un peu plus juste tout en permettant aux projets qui ont besoin de se financer. Mais là, en tout cas, j'ai pas de réponse miracle.
Bah après, pour moi, la situation est bien. Enfin, de toute façon, c'est, il n'y a pas de magie, quoi. C'est Android dans certains esprits, on a l'impression que c'est un système d'exploitation open source, et en fait c'est plus du tout le cas. On est sur du brandé Google dans le meilleur des cas, c'est du brandé Google rebrandé constructeur dans le pire. Et voilà, après effectivement, comme tu dis, dans un cas comme ça, partant de ce constat là, la magie à mettre en place pour que des alternatives puissent être présentées à l'utilisateur en premier lieu, qu'elles soient rémunérées, et le tout sans se ruiner, effectivement je le vois pas, quoi. Mais ça fait partie du panorama du monde mobile, quoi. C'est clairement, on n'est pas dans une situation où on peut parler d'équité, où on peut parler d'égalité des chances entre les entreprises qui proposent des services. On est sur un trust, quoi, clairement. Et le jour où il y a une alternative, je suis premier aussi, hein, clairement. Enfin, en tout cas, un système qui permet quelque chose de plus intéressant, ça m'intéresse.
Je sais pas si vous avez des iPhones, vous, parce que du coup, comment ça fonctionne chez Apple ? Vous avez des idées ? Est-ce que c'est pareil ? Enfin, moi, j'ai pas d'iPhone, alors je peux pas vous dire, mais...
Je sais pas du tout.
Mais sur iPhone, il me semble qu'ils ont un moteur par défaut, vu qu'ils ont pas de moteur de recherche eux-mêmes. Je pense pas que ça pose de soucis. Donc, à mon avis, ils doivent proposer Google par défaut. Et il me semble d'ailleurs que c'est le même modèle que Firefox, en fait. Il y a une enchère pour savoir quel sera le moteur par défaut, et après, tu peux changer. De mémoire, c'est ça. C'est ce qui me semble. Mais c'est un classique, ce système d'enchère, hein. Sur beaucoup de choix de moteur par défaut et de navigateur, c'est d'ailleurs un moyen de rémunération. Et c'est problématique dans la mesure où demain vous faites un navigateur, vous faites un moteur de recherche, bah, ça va être très compliqué de vous payer de billets d'entrée pour être mis dans la liste, etc. Et on sait que Google, pendant longtemps, bah, il est devenu le moteur de recherche aussi, parce qu'il était partout par défaut, parce qu'il avait, il était quand même plutôt très bon. Et du coup, comme tout le monde utilisait Google par défaut, bah, il laissait par défaut. Et c'est comme ça aussi que Chrome est arrivé. Ils étaient sur la homepage de tout le monde, ils marquaient télécharger Chrome, les gens téléchargeaient. C'est un cercle vicieux, si j'ose dire. Donc pour le coup, là-dessus, ça me choque pas, entre guillemets. C'était prévisible, on va dire.
Après, si on veut mettre une note d'espoir dans tout ça, on peut comparer ça à Internet Explorer préinstallé sur Windows pendant, je sais pas, 20 ans. J'ai perdu le compte. Et aujourd'hui, qui va mourir, parce que même les utilisateurs moins avertis se sont rendus compte que n'importe quel navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, était plus intéressant à l'usage. Après, c'est un cas différent, mais il y a quand même un peu cette situation de trust au départ, et il y a eu une porte de sortie, et du coup, la situation s'est renversée. Mais bon, là, on est peut-être dans un cas encore plus bloqué ici, parce que...
Mais je veux pas dire de bêtises, mais pour les browsers, il me semble justement que y a eu aussi cette commission européenne là, qui avait gueulé pour que en fait t'aies le choix, qu'on te propose le choix du navigateur à utiliser. Et alors après, la question c'est comment cette liste de choix a été construite. Je sais pas si c'est pareil, si c'était un système d'enchères, probablement. Hein, mais moi, je comprends que DuckDuckGo, en gros, leur message, c'est de dire, bah ouais, mais nous, par exemple, on file des sous à des associations. Bah, finalement, en gros, ce que vous nous dites, c'est on arrête de filer des sous à des associations parce qu'on met ces sous-là pour être le moteur de recherche parce que sinon, on génère plus de sous. Enfin, il y a Moi, je comprends que ça pose question, mais par contre, effectivement, là, je pense que c'est pas évident de trouver un système convenable et vertueux là-dessus.
Moi, j'aurais bien une proposition, mais ça voudrait dire aussi que Google s'assoit sur une partie de son chiffre d'affaires. C'est en gros que l'intégralité des moteurs de recherche paye un abonnement auprès d'Android. Et qu'en fait, Android, comme en plus à chaque fois il faut se connecter, fasse tourner les moteurs de recherche par défaut à chaque nouvelle installation. Et comme ça, équilibre en fait les moteurs de recherche par défaut proposés aux gens qui se connectent. Alors après, c'est pas parfait, hein, mais au moins ça aurait le mérite de brasser un petit peu les moteurs de recherche. Par défaut.
Niveau UX, je ne sais pas si c'est très très recommandable, on va dire, niveau expérience utilisateur. Pour le coup, là, j'ai quelques doutes.
Tiens, Android, c'est toujours plus ou moins une filiale de Google, non? Donc au final, enfin, tu retournes dans le même schéma au final, puisque je pose la question là, ouais, je crois bien que c'est ça, hein.
Android est totalement une filiale de Google. Tu as Android Core qui est open source. Après, ce qu'il faut voir, c'est que depuis maintenant pas mal d'années, surtout il y a quelques années, il y a eu un gros mouvement chez Google qui est très stratégique, qui est d'enlever des parties du code source, les rassembler dans des modules à part et des propriétariser. Je pense notamment à pas mal d'API qui avant étaient dans l'open source Core et qui aujourd'hui ont été mis dans des services Google et qui, pour le coup, sont maintenant sous licence. C'est sous propriété de Google exclusivement. Donc pour le coup, oui, Android est plus ou moins sur leur chapeau. On le voit bien avec notamment eFoundation, je crois que c'est ça l'option Android sans du coup totalement dégoogliser. Et on peut avoir un système dégooglisé et on voit qu'il y a plein d'applications qui commencent à ne plus fonctionner et c'est un peu problématique aujourd'hui pour le coup, à cause de ces API notamment.
Du coup, ce sujet nous amène très concrètement à parler de la neutralité du net. Et donc, Benoît, tu as une petite news, ou une grosse news même, sur la neutralité du net. Donc, je te laisse la parole.
Ouais, je sais pas si c'est une grosse news, parce que ça reste une relativement petite décision de la part de la Cour de justice de l'Union européenne, mais c'est quand même une bonne nouvelle et je pense que c'est pour ça que je voulais la partager parce qu'en ce moment on est un petit peu accablé de mauvaises nouvelles partout où on va sur tous les sujets. Je me suis dit qu'une bonne nouvelle de temps en temps ça faisait du bien. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je vous prends l'histoire depuis le début. Un opérateur norvégien proposait à ses clients du trafic gratuit vers certains services. Ce que j'entends par trafic gratuit, c'est par exemple vous avez un abonnement à Internet mobile, donc limité en termes de data. Et bien, si jamais, enfin, si vous prenez l'offre de cet opérateur, il vous promet, je me souviens plus des services ciblés, mais mettons par exemple, il vous promet un accès à YouTube. C'était pas le service concerné, mais c'est pour vous illustrer l'idée. Un accès à YouTube qui fonctionnera toujours, même une fois que vous aurez épuisé votre quota de data. Qui fonctionnera toujours avec un débit suffisant, fonctionnel, etc. Donc c'est ce qu'on appelle dans cet article-là, trafic gratuit, c'est du coup de privilégier certains services par rapport à d'autres une fois que vous avez épuisé vos données. Et du coup, ça va complètement à l'encontre du principe de la neutralité du net. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, alors c'est les autorités hongroises qui ont vu que cet opérateur proposait ce genre d'abonnement à des clients hongrois, justement, et qui a remonté ça à la Cour de justice de l'Union européenne pour trancher. Et la Cour de justice a dit c'est contraire au principe de neutralité du net, donc c'est interdit, et du coup l'opérateur s'est fait douter. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup ça, bah, enfin, je suis clairement pas je m'y connais vraiment pas du tout en droit, mais de ce que je comprends, ça peut faire jurisprudence et ça peut faire référence pour la suite. Donc c'est très intéressant parce que ça peut serrer un peu les vis auprès des opérateurs pour éviter ce genre de dérive. Faut noter qu'il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux, hein, évidemment je parle pas des opérateurs alternatifs qui font du taf des malades, mais il y a beaucoup d'opérateurs commerciaux qui lorgnent sur cette perspective de pouvoir proposer des services favorisés, enfin un accès à des services favorisés par rapport à d'autres, parce que financièrement ça ils s'y retrouveraient complètement. Et donc voilà, voir une décision de justice européenne officielle ferme sur le sujet, il y en a eu d'autres, mais en tout cas c'est pas non plus si fréquent, donc c'est encourageant pour la suite, et voilà, du coup je vous partageais ça.
Ouais, moi ça me rappelle, mais dans l'autre sens, ce qui s'était passé avec Free et YouTube, où à un moment il y avait un... Enfin, je me souviens plus trop du détail, mais en gros, il me semble qu'il y avait une espèce de débit limité vers YouTube. Et en fait, on en revient à la même idée, c'est qu'en gros, Free estimait que le trafic de YouTube était trop gros, donc en gros, ça, pour éviter une saturation, il mettait il me semble une espèce de limitation, mais en gros le message c'était, bah, si YouTube nous payait une espèce de taxe pour passer, bah, en gros on libérait cette limitation, et il me semble qu'ils s'étaient fait taper dessus assez vite avec cette histoire, mais de toute façon moi, je comprends que tous les opérateurs, ils voient ça comme une mine d'or de proposer une espèce de QoS sur les sites ou je sais pas quoi. Mais j'espère qu'il y aura toujours des gens pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Parce que c'est, franchement, c'est le meilleur moyen de comment dirais-je, de falsifier la concurrence qui est normale entre les sites et les services, quoi.
Pour le coup, c'est vrai que c'est une décision qui est assez importante, parce que j'avais l'impression que ça arrivait de plus en plus souvent. On voyait notamment des débits du coup limités comme Zero One, mais il y a aussi des cas où des forfaits commençaient des fois à apparaître en mode le trafic vers tel site est gratuit, et notamment sur autre chose qui est tout simplement les transports. Je pense notamment à la SNCF qui, de mémoire, faisait aussi des filtres à ce niveau-là. Moi, il me semble, hein, je dis peut-être des bêtises, ou en tout cas, ça avait été envisagé. Et pour le coup, je pense que cette décision peut justement faire office, en fait, du coup, de preuve d'illégalité de la chose, vu que effectivement la neutralité du net est inscrite au niveau de l'Union européenne. Alors, à voir comment ça va se répercuter. Je pense que c'est bien que ça vienne déjà maintenant. Ça va éviter de donner de mauvaises idées à certains, du coup, vu que la décision a déjà été prise. Donc pour le coup, je pense que c'est plutôt une bonne chose, et elle intervient entre guillemets assez tôt, c'est pas encore une pratique très courante, donc c'est plutôt, je pense que ça va plutôt calmer le jeu, et ça va éviter que les gens fassent ça.
Oui, je m'en souviens de cette histoire, parce que j'en avais parlé dans une trouvaille du vendredi, dont je vous mettrai le lien en description aussi, et du coup c'est vachement bien que cette décision elle soit prise, parce que ça ancre la neutralité du net en effet dans la communauté européenne. On sait par exemple que les Américains, eux, la neutralité du net, ils se sont assis dessus il y a un petit moment, il y a quelques années, je crois. Et du coup, ça va faire que tous les Européens vont être finalement égaux devant les fournisseurs. Et comme tu le disais, Erwan, ça va favoriser la concurrence. Et parce que sinon, il n'y a que les gros qui vont s'en sortir. Et les petits qui veulent émerger, ben, en fait, il n'y en aura plus. Et donc ça, c'est pas une bonne chose. Et moi ça me... Je trouve que c'est une bonne chose aussi en regard avec la... Comment dire, que le Privacy Shield ait été annulé, c'est quand même deux grosses bonnes nouvelles qui sont arrivées depuis cet été, et je trouve que ça va dans le bon sens au niveau européen, et que maintenant on va pouvoir construire des choses, en fait. Maintenant qu'on sait vers quoi on veut aller, il va falloir construire des choses ensemble pour y aller, quoi, finalement.
J'en profite pour, à titre tout à fait personnel, dire un grand bravo à la Quadrature du Net, qui fait un travail de ma boule sur ce sujet-là depuis... pareil, je sais plus depuis combien de temps, je suis trop jeune, je crois. Mais en gros, c'est aussi grâce à des associations comme ça qui vont faire le lobbying inverse par rapport aux pratiques commerciales qu'on a ce genre de décision qui arrive aujourd'hui. Enfin, voilà. j'ai pas le détail par rapport à cette affaire particulièrement, mais c'était juste pour souligner.
Mais je mettrai le lien de la quadrature du net dans la description de l'épisode. Comme ça, si nos auditrices et auditeurs veulent aller voir, eh ben, ils pourront. Parce qu'en effet, c'est une très bonne association et c'est un très bon lieu où se renseigner aussi sur ce qui se passe. Et c'est arrivé un peu tard. Aujourd'hui, il y avait une analyse aussi pareille d'une décision de justice sur la surveillance en France. Mais bon, c'est arrivé il y a quelques heures, donc pas le temps d'en parler. Donc on va passer au sujet suivant et on va parler gros sous. Et c'est Damir qui va nous parler gros sous.
Alors oui, je vais vous parler argent, vu qu'on en parlait beaucoup depuis le début, notamment avec ce thème d'enchères. Donc parlons dans l'arène du capitalisme, si j'ose dire, qui est la bourse, tout simplement. Et pas n'importe quelle bourse, celle de Wall Street. Pour ceux qui suivent un peu l'actualité, notamment des entrées en bourse et aussi des sociétés un peu, si j'ose dire, des licornes et des choses comme ça, vous avez une entreprise qui doit vous parler, c'est Snowflake. Snowflake. Tout simplement une entreprise qui fait du data warehouse as a service. Donc qu'est-ce que le data warehouse du coup? C'est tout simplement un regroupement de données. Du coup, on va agréger des données de différentes sources pour les regrouper et du coup dessus faire de l'intelligence. Donc c'est tout ce qu'on appelle le big data aujourd'hui, etc. Et c'est du coup quelque chose qui a de plus en plus de valeur pour les entreprises. Et on l'a bien vu à l'introduction en bourse de cette entreprise qui a du coup battu le record d'introduction en bourse d'une entreprise du logiciel. Donc elle a fait une entrée qui est assez, assez fracassante. Pour vous donner une idée, alors je ne vous ai pas pris les codes de la bourse, parce que c'est pas forcément parlant quand on ne suit pas la bourse, mais globalement, au début d'année, l'entreprise a levé des sommes comme 500 millions de dollars à peu près, ce qui est quand même assez énorme pour une levée de fonds. Et avec son entrée en bourse, elle a levé plus de 3,4 milliards de dollars. Donc, ce qui est quand même une somme faramineuse. Et ça me semble assez intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ça montre l'importance aujourd'hui en entreprise de la data. Je ne l'ai pas précisé, mais l'entreprise propose quand même un service de data warehouse qui est assez intéressant dans la mesure où il est totalement multi-cloud et décentralisé. Donc, il fait, quand je dis multi-cloud, ça va être du coup surtout de l'Amazon, de l'Azure et du Google Cloud. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'ils ont cet aspect-là. Et pour le coup, ça montre aussi que les sociétés de logiciels aujourd'hui, les sociétés qui vont créer des produits de ce type, commencent à vraiment de plus en plus exploser en bourse. Et on les voit régulièrement en fait faire des bons records et des entrées records. Donc ça montre vraiment, pour moi, ces deux choses-là qui sont assez intéressantes, qui sont du coup liées en fait, vu qu'on a de plus en plus d'intérêts économiques dans l'informatique et dans la data, forcément les capitalisations augmentent dessus. Et du coup, c'est quelque chose qui est, je pense, une date assez importante devant une entrée comme ça. On n'en verra clairement pas demain, ou sinon je serai le premier surpris. Mais c'est quelque chose pour moi qui était intéressant sur lequel voir. On ne s'intéresse pas tout le temps quand on est dans la tech à ces choses-là, mais c'est assez intéressant à garder, je pense, au coin de l'œil. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Benoît, de ce type d'introduction en bourse.
C'est impressionnant, hein. Ça montre l'ampleur que prend la tech d'un point de vue business. Enfin, c'était déjà une tendance qu'on pouvait voir même à plus petite échelle sur Paris, hein. Les levées de fonds explosent, du coup les rentrées en bourse explosent, mais effectivement là ça crève le plafond et c'est vraiment impressionnant. Après, j'espère juste que cette entrée en bourse fondra pas comme neige au soleil. Là. Pour ce coup-là. Pardon. Désolé.
Un merveilleux jeu de mots. Je ne peux que plus soyez ce jeu de mots.
Moi, je suis quand même assez impressionné de la valorisation, malgré tout. Je doute pas que Snowflake, ça soit cool, etc. Et qui mérite pas tout ça, mais j'ai un peu le sentiment que, alors c'est une réflexion de vieux con, hein, mais que dès qu'on met intelligence artificielle, big data en mots-clés, tout de suite les compteurs s'affolent complètement. Je pense, mais pas. C'est une belle réussite de voir que Dataiku avait levé, je crois, récemment. Un peu plus de 100 millions, alors je sais pas si c'est d'euros ou de dollars, mais et c'est super, mais Mais je crois que, enfin, en fait, ce qui m'impressionne, c'est à chaque fois les valorisations qui vont avec, qui me paraissent totalement dément. Mais bon, j'espère que j'aurai des BSPCE dans des boîtes comme ça.
Mais pour le coup, je pense quand même que, après, je connais pas le produit, hein, mais le produit semble quand même assez puissant, mais c'est sûr que c'est aujourd'hui des domaines de la data, il y a un peu ces keywords qui font vendre, entre guillemets. Il n'y a pas trop de spoil à se faire là-dessus, hein. Ça aide aujourd'hui, mettez dans n'importe quel titre de société des mots un peu à la mode et ça fonctionnera. Après, il faut aussi faire attention, il y a peut-être de la surévaluation justement à cause de ça. On se souvient notamment de l'entreprise du coup qui s'était mise en face de la concurrence de Tesla, qui s'appelait Nikola. Bien sûr, très recherché comme nom du coup, qui s'est avéré être une grosse supercherie. Et finalement, tout le monde s'était emballé derrière. Donc des fois, il faut faire attention à ces valorisations. Là, c'est peut-être pas le cas vu que la société est quand même assez ancienne, mais dans certains cas, effectivement, ça peut être un discours très creux au final.
Là où ça avait explosé, si je me souviens bien, ce genre de pratique, c'était à la grande époque des levées de fonds à base de Bitcoin, pour des sociétés du coup qui existaient un coup oui, un coup non. Et pareil, je me souviens plus des montants, mais il y avait eu des levées de fonds, notamment quand le wording était composé de data, machine learning et autres. Alors quand c'était data, machine learning, le tout basé sur de la blockchain, alors là les compteurs explosaient. Et je me souviens qu'il y a eu quelques dizaines de milliers de personnes au total qui s'étaient fait arnaquer sur des levées de fonds à base de Bitcoin comme ça.
Il faut mettre disruptive aussi. C'est disruptive data engineering on blockchain. Ça marche très bien.
FinTech et MedTech.
FinTech. Alors moi je suis assez impressionné par le montant. Surtout le montant de l'action, puisque je viens de voir, il est à $247. Alors, moi, ça me rappelle un petit peu quand même la bulle Internet du début des années 2000, et j'ai l'impression qu'on est en train d'y revenir, parce que finalement, quand on regarde la bourse de manière globale, tout s'écroule à part le Nasdaq, donc les entreprises tech américaines, qui explosent depuis le Covid. Et moi, je serais curieux de voir aussi la valorisation par rapport au chiffre d'affaires, parce que déjà, l'entreprise, elle a levé des fonds, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle les rembourse quelque part. Et cette valorisation, est-ce qu'elle n'est pas un peu surestimée par rapport au chiffre d'affaires, même si je vois qu'ils font une super croissance, qu'ils ont fait une croissance de plus de 170% depuis l'année dernière. Mais en effet, j'ai peur que ça s'emballe, et que les personnes qui achètent les actions de ces entreprises ne se rendent pas bien compte qu'en fait, finalement, c'est peut-être surévalué par rapport à tout ce qu'on peut faire. Parce que 84 milliards, je ne sais pas combien est valorisé Apple ou Google, mais c'est des chiffres absolument impressionnants. Surtout pour une entreprise qui démarre, quoi. Enfin, qui démarre.
Je pense que dans les entrées en bourse, parce que l'entreprise est quand même relativement vieille, entre guillemets, hein, elle n'a pas été créée hier, elle date de début 2014, quoi, il me semble. Donc c'est assez, on va dire, ils sont un minimum matures sur ce qu'ils font. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être une sorte d'emballement. Après, je ne suis pas expert en bourse, mais dans les entrées un peu fracassantes comme ça, il y a toujours, je pense, un effet d'emballement où les gens surenchérissent parce que ça surenchérit, donc c'est qu'il y a quelque chose. C'est humain, je pense que c'est le cas.
Il y a un truc qu'on m'a expliqué il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait la valorisation des entreprises, notamment quand il s'agit d'entrer en bourse, c'est une valeur qui est complètement arbitraire au final, parce qu'il y a une valeur boursière, enfin une valeur capitalistique de la boîte qui est mesurable, et en fait par-dessus ça, il y a plein de facteurs qui peuvent agrémenter la valorisation finale qui va être retenue pour les entrées en bourse et autres opérations. Et en fait, la personne qui m'expliquait ça, c'était un avocat d'affaires, et il me disait, en fait, concrètement, il suffit même que le CEO soit charismatique et fasse des entrées, des apparitions publiques fracassantes pour que ça augmente la valeur de la valorisation de la boîte. Donc du coup, effectivement, le système d'emballement, ça me paraît pas déconnant.
C'est l'effet WeWork, avec le fameux CEO qui était justement très, enfin, visible, un peu fou et tout, mais qui, qui a un peu roulé tout le monde dans la farine, quoi. Et enfin, donc du coup, c'est clairement ce que tu dis, quoi.
C'est aussi l'effet Tesla. Tesla est a priori surévalué. L'action a dépassé les 1000 dollars. Enfin, c'est assez énorme. En plus, alors moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que finalement, comme c'est une entrée en bourse, ça veut dire que c'est la société qui va toucher ces milliards. Donc, avec tous ces milliards, qu'est-ce que Snowflake va faire? Parce que honnêtement, là, elle a de quoi faire pas mal de choses.
Ah oui, non, mais là, clairement, ils vont avoir du budget pour asseoir peut-être des plans de com ou des choses comme ça pour avoir vraiment une explosion de clients et peut-être encore améliorer leurs produits pour sortir des features un peu, entre guillemets, importantes pour un peu écraser la concurrence, du coup. Après, il y aura une partie, je sais pas, peut-être du marketing, peut-être un beau siège. Ça, c'est toujours des choses un peu optionnelles.
Alors, petite précision, l'entrée en bourse a été faite le 16 septembre à 120 dollars l'action. Et aujourd'hui, presque trois semaines plus tard, l'action est à 245 dollars.
Elle a baissé, je crois qu'elle est passée à 300 à un moment.
Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a déjà fait x2.
Oui, mais elle avait connu un pic qui est du coup, comme on disait, peut-être un emballement.
Ben, c'est possible qu'il y ait eu une correction en effet du marché, mais c'est déjà impressionnant que... Parce que souvent, quand on voit une introduction en bourse, l'action a tendance à chuter les semaines suivantes, mais là, elle a fait x2. Bon, on verra, en tout cas, ce que ça donne après.
En tout cas, on vous donne des conseils. Si jamais demain, vous faites une levée de fonds, essayez de faire un TED Talk ou quelque chose comme ça avant, en étant très charismatique et en donnant une conférence inspirante.
Exactement. Je crois qu'on va s'arrêter sur ce petit mot de la fin. Merci à tous les trois de nous avoir encore régalé pendant presque 50 minutes sur ces actus. Et ben, je vous dis au prochain épisode où on va parler de télétravail. Je vous laisse un petit mot de la fin. Moi, je dis à tous nos éditrices et auditeurs à très bientôt et abonnez-vous au podcast.
Ben, merci de nous avoir écoutés, à bientôt. Et j'espère que mon chat me dérangera un peu moins la prochaine fois parce que là, il voulait participer au podcast.
Je dirais d'aller voir ce que fait la quadrature du net parce qu'on y gagnera tous.
Eh bien, ce sera chaudron.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager. Ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt. La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.